Entourage, présenté par Kevin et Larbi. Une bulle d'intimité sur Beta Série, la radio.
Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue pour ce premier podcast de l'été, un allongement de notre saison sur Beta Série due au confinement. Comme vous l'entendez derrière moi avec la douce voix de Marilyn Monroe dans certains Lem Show, ce podcast sera entièrement féminin. Enfin, pas vraiment entièrement féminin, vous le verrez. Mais en tout cas, je suis très content d'avoir une interlocutrice féminine. Ça fait longtemps dans Entourage, en tout cas pour un plateau aussi long. Merci tout d'abord d'avoir été au rendez-vous du podcast avec Perry Mason que vous pouvez retrouver tout l'été sur OCS en US plus 24. Mon entretien avec l'équipe est toujours disponible sur toutes les plateformes. C'était le dernier podcast qui bouclait la saison. On aura l'occasion de se retrouver pour d'autres séries OCS cet été. Surveillez mes réseaux et ceux de Beta Série. Mais pour l'instant, on va un petit peu conclure la saison, en tout cas la fausse saison, comme on l'a démarré, puisqu'on a démarré avec Maxence Danefovel pour le pilote d'Entourage. C'était pour le lancement des saisons 5 et 6 de Scam, les dernières saisons avec le casting tel qu'on le connaît. Et je voulais du coup pouvoir aller plus avant dans cette série, une série importante, une série générationnel avec Lula Coton-Frappier. Lula Coton-Frappier qui fait partie des personnages principaux de Scam et qui vient de conclure au moment où on enregistre cette émission. Elle passe de mi-juillet, mais au moment où on enregistre, le final de Scam vient d'être diffusé. Bonjour Lula.
Bonjour.
Ça fait très plaisir que tu sois là. Alors on va pas mentir aux gens, je vais te poser plein de questions comme si je ne savais pas, mais nous sommes très proches, un petit peu comme avec Samy, mais on va faire comme si de rien n'était. On va donc parler de Scam, on va parler aussi de tes goûts sériphiles, et ça tombe bien puisque ce sont les mêmes que certains invités que j'ai pu avoir précédemment dans le podcast, notamment Patrice Stewart. On verra ça, on parlera de Succession tout à l'heure. Mais auparavant, ne perdons pas de temps puisque je sais que les gens veulent parler de ce final très réussi hein, de Scam. On va regarder tout d'abord le teaser de ces deux dernières saisons et puis on en reparle juste après.
Parce que ça fait des années qu'elle est morte pour moi, voilà.
Ça fait des années que tu fais comme si elle n'existait pas.
Plus de 100 mensuels pour mon addictologue, histoire de vérifier que je suis sage. Cadeau.
Moi, c'est Maya.
T'es là de ton plein gré, conscience écologique.
J'adore sauver les dauphins, c'est ma passion.
Les filles, là, ça suffit.
Là, c'est notre père, il a besoin de nous, en fait.
C'est ton père.
Ma mère n'avait rien d'exceptionnel. Elle était alcoolique et elle a trompé son mari il y a 17 ans. Quelque part, c'est peut-être mieux qu'elle soit morte. On n'est plus obligé de faire semblant.
Voilà, teaser de Scam, saison 5 et 6, que vous pouvez retrouver sur France TV Slash, évidemment, cette plateforme qui a été d'ailleurs lancée pour cette série. Alors, Lula, comment ça va d'avoir dit adieu à Daphné, un personnage qui a été très important pour toi?
Ça va, pour le moment, tout va bien. J'ai l'impression de l'avoir dit adieu tellement de fois et de l'avoir retrouvé tellement de fois. Là, c'est un certain au revoir, peut-être pour la retrouver à un autre moment, même rien qu'en re-regardant les épisodes. C'est un perso qui m'a fait grandir énormément, qui m'a fait rencontrer des gens incroyables et qui me permet d'être là aujourd'hui. Donc, c'est pas vraiment un au revoir, vu que je suis là grâce à elle encore maintenant.
Que tu es là aujourd'hui, bien que tu sois une actrice confirmée, il y a beaucoup de gens qui nous écoutent qui sont en école d'acting ou de cinéma. Tu as commencé très jeune dans le métier. Tu étais la vedette d'une série de France 2 importante quand tu avais 12 ans qui s'appelait Inquisitio. Il y a quelques années de ça. Et pour Scam, ce qui a été compliqué, c'est ça que j'aimerais que tu expliques aux gens, c'est que au début, tu n'aimais pas le personnage de Daphné, et tu en as fait un personnage que tu aimais.
C'est-à-dire que de base, quand j'ai lu les épisodes, quand je suis arrivée même au casting, je me suis dit, mais dans quoi je me mets actuellement? Dans quel personnage? Qu'est-ce que je vais donner aux générations? Qu'est-ce que je vais pouvoir faire avec ça, quoi? Et petit à petit, pour jouer quelqu'un, il faut absolument l'aimer. Je pense que c'est fondamental, ou au moins trouver des choses pour se raccrocher. Et là, j'ai essayé, et on a essayé avec le réalisateur, de trouver ses failles, et en fait, de par ses failles, créer quelqu'un que j'espère être, touchante en tout cas.
Oui, parce que le danger, ça aurait pu être qu'elle aurait pu être comme tous les clichés de séries américaines, la bitch de service, et en fait, tu en as fait quelqu'un de maladroit plutôt que méchant. En tout cas, dans les deux premières saisons.
C'est le but. Même dans 3 et 4, elle apprend, en fait. Et c'est par ses maladresses qu'elle apprend, et je pense qu'elle représente vachement le public qui, même si, peut-être le côté négatif, mais au moins, c'est qu'elle essaye d'apprendre et elle essaye de s'améliorer, et elle s'améliore petit à petit. C'est un long chemin de croix, mais voilà, elle s'améliore en tout cas.
Et ça a été, et dans les saisons 5 et 6, où tu as un véritable rôle de composition et une partition d'ailleurs formidable, toi et ta sœur, puisque ces saisons sont centrées sur vous deux, en tout cas sur le mal qui ronge ta sœur. En tout cas en saison 6. Comment est-ce que tu travailles? Je sais que c'est un scénario pour Scam, c'est compliqué parce que vous tournez ce qu'on appelle des minutes utiles par jour assez longues, entre 15 et 20 minutes me semble-t-il.
C'est exactement
15-20 minutes d'images qui seront finalement montées et mixées, ce qui laisse peu de temps pour de multiples prises, etc. Pour indication pour les gens au cinéma, généralement on tourne 2 à 3 minutes utiles par jour, quand là c'est 18 pour cette série qui est pourtant on va parler de la technique après, d'une grande qualité technique. Quand tu reçois un scénario avec autant de choses à jouer et aussi peu de prises, comment est-ce que tu fais? Je sais que tu mets différentes annotations sur tes scénarios.
J'ai beaucoup d'annotations, beaucoup de codes couleurs surtout. Je commence par le lire une première fois à blanc. Après, pour m'en faire une première petite idée, ensuite je commence à sortir mes codes couleurs en me disant de quoi je vais avoir besoin. Par exemple, pour Scam, il y a toute cette histoire de Benny Taxi qui avait elle-même, en tout cas Benny, sa couleur, son coloris, parce que c'était quelque chose d'autre, même si ça faisait partie de mon personnage. J'annote tout ce qu'on dit de mon personnage, tout ce qui est dit sur elle, par elle, fait par elle, et tout ça. Et voilà, donc c'est tout ce qu'elle représente chez les autres. Et j'ai des post-it sur le côté, en haut sur le côté et en bas, qui représentent pas la même chose non plus. La plupart du temps, en haut, ça va être les décors, ça va être des post-it en fonction des décors. Sur le côté, c'est le par jour de tournage. Et en bas, c'est la continuité de mon personnage.
Et quand tu arrives sur le plateau, tu arrives avec ce scénario pour que tu regardes, ou alors c'est vraiment dans la préparation et après t'as le jour à jour, donc le fameux texte de la journée qu'on vous donne au HMC, habillage, maquillage, coiffure, tu fais qu'avec le jour à jour ou tu utilises ce scénario-là tout le tournage?
Le scénario, je le lâche souvent 2 semaines avant le tournage quand j'ai la chance de pouvoir le lâcher, parce que souvent on n'a pas cette chance-là, mais j'essaie de le lâcher 2 semaines avant le tournage pour pouvoir justement tout ce que j'ai travaillé de manière assez compulsive, parce que je sais que je ne peux pas lâcher un scénario tant que je ne le connais pas par cœur. Donc des 400 pages, je les apprends en 2 nuits, parce que je n'endors pas sinon. Et donc, j'essaie justement au contraire de lâcher toutes les idées préconçues que je me suis faites pour justement laisser place aux accidents, laisser place à une relecture, même si de base, je me cale pas une scène de certaine manière, je me la cale, je pense, essayer de la jouer de toutes les manières, vu que c'est ce qu'il faut par rapport au réalisateur et ou la réalisatrice. Et voilà, donc non, j'essaie au contraire de lâcher le plus tôt possible, de lâcher cette idée que je me suis faite de ce personnage-là à ce moment-là.
Parce que tu as je voudrais te faire réagir sur une notion que tu as du jeu, ce qui est intéressant, et on en a peu parlé dans les entourages cette saison, c'est que tu mets une différence entre le fait de jouer juste, c'est-à-dire de prendre de soi et de jouer juste, d'essayer de rendre quelque chose réaliste, et le fait de composer. Est-ce que tu peux nous expliquer cette nuance entre la composition et le fait de jouer juste?
Alors, je suis très jeune pour donner un cours de...
Non mais bien, c'est une nuance intéressante, c'est pour
mais
ça que...
Mais c'est vrai que, enfin, à mon niveau et à là où j'en suis aujourd'hui, je compose toujours quelqu'un de très différent de moi. D'ailleurs, Daphné, saison 1 et 2, 3, 4, 5, 6, c'est quelqu'un d'appart entière et qui n'a rien à voir avec moi vraiment sur toutes ces réactions, toutes ces choses-là. Parce que même si on a des points communs, j'essaie de les prendre pour les éloigner le plus possible. En fait, au final, donc, pour moi, cette composition est essentielle à un jeu d'autant plus détaché et à, pour pouvoir aller limite plus loin dans les pleurs. Je suis pas triste comme Daphné est triste. Je n'ai pas les mêmes réactions que Daphné a à des mêmes phrases débiles comme tu vas vouloir un verre d'eau. Enfin, voilà, ça va être des choses comme ça. Mais je pense que la composition est importante aussi sur ce genre de série qui est énormément regardée et où on nous identifie énormément à ces rôles-là. D'ailleurs, j'ai souvent cette réaction de « mais tu ressembles pas du tout à Daphné ». Non,
en effet. That's my job.
That's my job.
Et avant qu'on lance un premier extrait de Scam de cette saison 6, un brillamment réussi, une brillante fin d'arc narratif pour tous vos personnages tels qu'on les connaît, puisqu'il y a une saison 7 et 8 de Scam qui a été annoncée, mais pas du tout avec le même casting. C'est une autre histoire, une autre équipe artistique. Maxence, quand il était dans ce podcast-là pour ouvrir la saison, il nous disait, alors ce serait peut-être plus facile pour toi de le dire maintenant que c'est derrière et que tout est fini, mais lui, il nous disait que c'était compliqué pour lui, ce principe transmédia de série, ce principe de faux compte, hein, puisque du coup France TV Stage vous a tous créé des faux comptes sur les réseaux sociaux avec le nom de vos personnages, les faisant vivre, etc. Ce qui peut parfois peut-être perturber le spectateur. Est-ce que c'est elle vraiment? Est-ce que c'est pas elle et tout? Et lui, il nous disait que Scam, en tant que tel, tournée et la série, il adorait. Après, il n'était pas forcément sûr du bienfait de ces autres aspects. Qu'est-ce que tu en penses, toi?
Moi, je dis qu'il y a des comptes où il y a eu un travail extraordinaire qui a été fait, qui sont très très réels et réalistes. Il y en a d'autres où ça l'était un peu moins, mais disons que c'est un taf tellement compliqué et ça se mettait en place avec Scam. Ça a été bizarre par rapport aux fans qui considéraient qu'ils nous connaissaient de ce fait parce qu'on était sur leur téléphone en permanence, qu'on ne gérait pas. On a aucun droit de regard sur les images qui sont utilisées sur notre compte, donc c'est un peu bizarre.
Ah,
on
se retrouve
avec des photos qu'on veut pas qu'ils soient publiées, des photos de nos têtes qu'on n'a pas du tout envie qu'ils soient sur les réseaux sociaux et tout ça, des trucs où les gens ne comprennent pas que non, on n'est pas Daphné. Moi, dans la rue, on m'appelle Daphné et je pense que c'est entre autres dû à ces comptes transmédia. Après, encore une fois, c'est fini, comme tu dis. Donc, j'aurais beaucoup de mal à en dire du mal parce que bah, c'est fini. Et maintenant, ça fait partie de...
Ça fait partie de l'aventure aussi.
Voilà, ça fait partie de l'aventure et comme on l'a vécu. Et je pense qu'on ne le revivra pas de si tôt. Donc, en tout cas pour nous, parce que déjà, on ne va plus faire beaucoup de rôles d'ado, je pense. Ou en tout cas, pas de ce siècle.
Voilà, c'est ça. Je faisais des grands yeux, mais on va rester, puisque tu as beaucoup de projets et beaucoup de tournages qui vont arriver. On ne va pas pouvoir divulguer le nom des séries, des productions, etc. Il faut être superstitieux, mais en tout cas, vous allez pouvoir revoir Lula dans des choses assez extraordinaires cette prochaine année. On va tout de suite lancer un premier extrait de Scam, parce que je voulais te faire réagir ensuite à ta relation avec Régis Rommel, en espérant que je n'écorche pas son nom. C'est une scène que je trouve assez formidable dans cette dernière saison, une scène dans laquelle toi et ta sœur, vous vous levez et vous lui souhaitez une bonne fête. Vous venez auparavant de perdre votre maman. Il y a ces relations avec des troubles psychologiques pour ta sœur. Donc, et là, c'est un petit peu d'espoir et un petit peu d'amour. Et c'est une scène très très belle qui va me... Ensuite, j'aimerais que tu réagisses sur le travail avec ces deux comédiens avec lesquels tu tournes le plus cette saison.
Bon, t'es pas obligé de tout manger, mais mange un truc quand même.
Tiens, merci.
J'ai ton proviseur qui m'a laissé un message vendredi.
Il voulait quoi?
Que tu passes le voir au lycée demain. Je sais pas pourquoi.
Ok.
J'ai aussi eu l'hôpital. Ils ont une place qui se libère à partir du 1er juillet.
Et tu leur as répondu quoi? Non, papa, tu vas les rappeler, tu vas leur dire que ça sert à rien.
Daphné.
Non! Non, Lola, tu vas pas retourner à l'hôpital, c'est bon, là. On est là, nous, et puis... Puis t'as des gens ici, t'as des gens qui ont besoin de toi.
T'en penses quoi, toi? Qu'est-ce qui serait le mieux pour toi?
Je crois que je vais le faire.
Lola, non, s'il te plaît, t'es pas obligée de faire ça.
Je sais. Mais si je veux changer, j'en ai besoin. Mais pas trop longtemps, d'accord? Je vais pas perdre ça. Ça va aller. promis. Et merci de m'avoir laissé le choix. Papa.
Voilà, Scam, réalisé donc par David Ourague, hein, puisque tu citais David tout à l'heure. Alors, comment s'est passé le travail sur ces deux saisons avec Flavie et Régis, deux comédiens assez formidables d'ailleurs, et puis l'alchimie, tous les trois, c'est quelque chose. Il y a eu des lectures avant, ça a été sur le plateau, comment ça s'est fait?
Non, il y a eu des lectures avant, évidemment, on a cette chance quand même avec Scam, même si on tourne très 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 vite, d'avoir des lectures et d'avoir un réalisateur qui nous jettera pas dans la gueule du loup et nous dira pas « bon bah c'est bon, vous vous démerdez », au contraire. Et même avec Régis et Flavie, on a créé une petite famille en fait. On est devenus, le temps d'un tournage et même après, cette famille-là, nous on se dit souvent avec Flavie qu'on s'aime, on s'écrit des messages, on est sur un groupe WhatsApp ensemble, on s'écrit des choses, ou on s'envoie parfois nos petits repas, comme un groupe WhatsApp familial normal en fait, en soi. Enfin, des choses hyper intéressantes, mais des choses assez quotidiennes et sympathiques. Genre les spécialités culinaires de Régis Rommel, qui est le tartare de saumon, évidemment. Et puis, il y a eu cette chose où il nous a adoptés, en fait, d'une bienveillance absolue, Régis. Flavie, pareil, on a beaucoup discuté, on s'est adoptés en tant que famille, on a été au zoo ensemble, on a été se faire des balades pour montrer à Flavie, par exemple, des quartiers de Paris. Avec Régis, on a fait des tours de Paris en voiture pour aller voir Paris de nuit et tout ça. Et on a été à la maison chez moi faire des petits jeux. La veille de tournage, on n'avait pas encore tourné ensemble. Et c'était ouais, comme une famille, quoi. Et
c'était, qui fait que c'était pas marrant. Factice, arrivé sur le plateau, quelque chose s'était créé auparavant.
Ah oui, puis on s'adore. Enfin, ça a toujours été très très naturel pour nous de jouer ça, voire déchirant. Et
scène de l'enterrement est particulièrement.
Premier jour de tournage pour Flavie et pour moi sur cette saison.
Enterrement de votre maman, donc, hein, pour les gens voilà. Qui n'auraient pas vu là.
Et c'était dur, quoi. C'était évidemment compliqué parce qu'on avait 5 heures de tournage pour rentrer ça. J'ai passé 5 heures à pleurer toutes les larmes de mon corps, que ce soit dans les plans larges ou les plans serrés et tout ça. Même les plans pas sur moi, forcément, j'étais en pleurs totalement tout le temps. Et toute la figuration était en pleurs. C'était dingue, c'était une ambiance assez hyper pesante. Voilà, et c'était un immense souvenir de tournage, pour le coup, d'avoir toute cette cohésion de groupe, malgré le fait qu'il y a presque que Flavie et moi qui parlons dans ces scènes. Et pourtant, tout le monde était là à nous soutenir et avait un soutien autant psychologique que moral. Personne n'allait rigoler sur son téléphone entre les prises, quoi. Et ça, c'était dingue.
Flavie, qui est une actrice, c'est rare que les gens fassent ça en essai, mais une actrice qui t'avait bouleversé dès les essais. Et me semble-t-il, tu me dis si je me trompe, tu lui as envoyé un message la veille de faire les essais pour lui dire bon courage, voilà.
En fait, je savais que j'en voyais quelques-unes. Et au final, je n'en ai pas vu quelques-unes, j'ai vu que Flavie, parce que c'était la seule disponible à cette date-là. Et les autres, je devais les voir après l'été. Et en fait, je savais que c'était une certaine Flavie. Je vois qu'une Flavie me suit sur Instagram. Je ne sais pas comment c'est arrivé, mais j'ai vu. Et je me dis, bon, bah, je vais lui envoyer un message. Et j'ai un petit message de bon courage et tout ça. On va se croiser demain. Elle ne savait même pas pour quelle série. Elle passait les essais. Elle avait eu le texte la veille au soir. Et je la vois arriver avec son petit chignon. Et enfin, c'était une évidence. Très chouette, et c'est vraiment une fille très chouette, très elle vit vachement quand elle tourne quelque chose, elle vit ce qu'elle fait, et c'est très agréable de tourner avec ce genre de comédienne, en fait, surtout quand on est des actrices totalement aux antipodes en termes de carrière ou de même de façon de travailler. Je pense qu'on est vraiment aux antipodes, et voilà.
Oui, parce que c'est une véritable équipe, une famille qui s'est créée. On diffusera en fin d'émission tout à l'heure le clip de ton single Mon île à moi, dans lequel on retrouve Maxence, ouais. Qui joue donc Elliot dans la série Scam, et aussi une famille sérifide, Victor Meutlet, que vous avez pu voir dans Clem, le bazar de la charité. Ouais, on en reparlera tout à l'heure. Avant de lancer une autre scène, je voulais te faire parler de quelque chose, puisque sur Scam, encore une fois, vous avez de longues minutes utiles par jour, hein, près de 18 minutes, donc il faut tourner quoi qu'il se passe, quoi qu'il en coûte, notamment des scènes avec de forts enjeux dramatiques. Et je pense notamment à cette scène que nous allons diffuser dans quelques minutes, sur laquelle tu es sur un toit avec ta sœur, une scène à l'enjeu dramatique très fort, malgré des enjeux climatiques très forts également. Et avec Scan,
il n'y a pas moins.
Et de sécurité. Tu peux nous en parler quelques minutes ?
Alors déjà, faut replacer dans le contexte qu'on a une technique absolument démentielle. C'est-à-dire que nous, sans cette technique, nous, acteurs, on ne pourrait jamais livrer ce qu'on livre. C'est grâce à eux qu'on a des plans aussi rapidement installés. C'est grâce à eux qu'on a toujours un son bien pris. C'est grâce à eux qu'on a toujours une super lumière. C'est grâce à eux qu'il y a une super ambiance sur le plateau. Et qu'on peut être aussi à l'aise dans le jeu et qu'on peut livrer ce qu'on livre vraiment. Enfin, il faut vraiment le dire. La technique est dingue. Et ils sont très jeunes. En plus, c'est vraiment une équipe assez jeune, de la trentaine, quarantaine. Et c'est rare sur les plateaux.
Chef opérateur et lumière dingue. Je pensais avoir le nom du chef opérateur sur mon conducteur, mais je ne l'ai pas. Merci, Xavier Deléon.
Et qui fait un travail formidable, qui cadre aussi en caméra à l'épaule, au steadicam et tout ça. On tourne à deux caméras, ça aide vachement. Et donc cette scène sur le toit est à la tour Pleyel, qui a des problèmes de sécurité, c'est-à-dire qu'on est toujours accompagné par un garde. Mmh. On peut pas prendre l'ascenseur tout seul, on a toujours peur, c'est un monte charge. Il y avait pas de fenêtre, on était au bout. c'était terrifiant comme endroit. On savait, il y avait des espèces de borgnoles de partout pour pas qu'on marche dans des trous, en fait. Il y avait des trous au-dessus de nous, des trous en dessous, des trous partout. Voilà, c'était assez terrifiant. On devait aller se changer dans une espèce de petit cabanon qui avait été mis à cet effet. Enfin, c'était fou. Moi, quand j'arrive, il y a des trous à ma droite et à ma gauche. Quand j'arrive et que je cours et que je prends les escaliers, là, il y a des trous à droite et à gauche. Et cette arrivée, on l'a tournée après avoir tourné la scène. Aussi.
Okay.
Donc, on se dit, c'est bon, je peux arrêter. Ah non, c'est pire. Donc, voilà. Et crise d'asthme, évidemment, parce qu'il fallait monter beaucoup d'étages.
Et puis, peut-être tout cela accentué par ce qu'il va falloir donner dans la scène, parce que c'est pas pour les deux, c'est une scène. On en reparle tout de suite. Je veux montrer cette scène aux gens, pour ceux qui n'ont pas vu, puis comme ça, on comprendra mieux de quoi on parle, et puis on continue là-dessus juste après. Donc, Scam, toujours, hein, saison 6, réalisée par David Goureg, avec Flavie Delangle. C'est ce qu'on va voir tout de suite.
Comment tu m'as trouvé ? Tu m'as dit que c'était un endroit spécial pour toi. C'est moi, Benny. J'ai essayé de te le dire plusieurs fois. Tout ce que je t'ai raconté sur moi, sur ma famille, mes problèmes, sur toi. Je suis désolée. Mais après ton hospitalisation, t'as arrêté de me parler. Et c'est comme si d'un coup t'étais plus ma sœur.
Mais j'étais plus ta sœur.
Mais pourquoi ? Parce qu'on n'avait plus le même père ? Tu crois que ça changeait quelque chose pour moi ? T'as pas arrêté de dire que t'avais plus de famille. Mais j'étais là. Je pouvais pas arrêter de te parler, Lola. T'es ma sœur. Je pouvais pas arrêter de t'aimer comme ça du jour au lendemain. J'avais besoin de toi, moi aussi. Lola, ces trois dernières années, ça a été les meilleures et les pires de ma vie parce que tout ce que j'y vivais de bien ou de pas bien, je pouvais pas le vivre avec toi. Là, j'ai juste cru que tu t'étais...
J'y ai pensé. J'ai failli même. Je voulais partir. Je me suis retrouvée ici.
Pourquoi ?
Parce que c'était plus simple. J'ai merdé, Daphné. J'ai fait du mal à tout le monde.
Personne t'en veut, Lola. Personne. Papa est au commissariat. Toute la MIF te cherche. Même Maya, elle était prête à retourner toute la ville pour te trouver, mais je lui ai dit de rester chez elle au cas où t'irais.
J'ai fait du mal à Lucas et à Elliot. Surtout à Elliot.
C'est Elliot qui t'a retrouvé. Il a reconnu l'emplacement de la tour. Ils sont juste allés vérifier un autre toit parce qu'ils étaient pas sûrs. Tout le monde te cherche, Lola.
Voilà, moi c'est probablement une de mes scènes préférées de la dernière saison. Combien de prises pour justement expliquer aux gens vous avez une, parce que ça me
j'ai peur de dire une bêtise. J'ai peur de dire 2-3 alors que ça en était 6. J'ai vraiment peur. Je ne sais pas.
En tout cas,
je ne sais plus. En tout cas, ça a été. Oui, bon, 6 sur Scam, c'est énorme.
Oui.
6 sur Scam, c'est énormissime. Par contre...
Oui, mais vu l'enjeu de la...
De la scène, oui. Mais avec Flavie, ça a été une scène où nous, on se disait des choses... On en a parlé, là, il y a 2 jours, entre autres. Et où on se disait des choses autres, en fait. Des choses de la vie qu'on avait vécues ensemble quelques jours auparavant. Et c'était très particulier pour nous cette scène, c'est qu'on se disait autre chose et on se disait je veux pas te perdre, je t'aime trop. Et clairement c'était un moment hyper puissant pour nous deux, vraiment en termes de personnes aussi. Et il fallait rester dans nos personnages, dans la tristesse de nos personnages et dans l'enjeu de nos personnages. Mais à la fin on s'est pris dans les bras, on s'est expliqué sur d'autres choses et des trucs rien d'évidemment grave du tout, hein, voilà. Mais c'était un moment absolument dément de vie à deux, quoi. Voilà.
Et c'est bien ce qui se sent justement. Alors peut-être pour de manière un peu générale, puisque 6 saisons de Scam ont été diffusées, mais vous tourniez 2 saisons par an, donc ça fait 3 ans de tournage. Bien que tu tournes depuis longtemps, chaque tournage ou chaque pièce de théâtre d'ailleurs nous apprend quelque chose. Qu'est-ce que, d'un point de vue technique, peut-être d'un point de vue humain aussi, tu ressors, peut-être qu'il n'y a pas encore assez de recul, mais tu ressors de ces 3 saisons de Scam. On va citer d'autres acteurs parce qu'il y a aussi Maxence Danet-Fauvel qui était évidemment dans le podcast il n'y a pas longtemps, mais je pense aussi à Axel Orient, à ça, Silla, etc. Citer ces acteurs-là. Mais qu'est-ce que tu retiens techniquement et humainement de ce tournage ?
J'ai énormément appris de partout, disons techniquement, humainement et tout ça. J'ai appris à reconnaître le travail de certaines personnes que je ne connaissais pas, apprendre ce qu'était un directeur de collection. Je ne savais pas ce que c'était. Moi, à 19 ans, c'est en même temps, ça paraît assez logique quand on ne fait pas ce métier depuis si longtemps que ça en soi. Les showrunners, les gens, enfin, on connaît tout le monde sur ce plateau. On connaît tous les gens de l'ombre en soi. Tous les corps de métier, on est en contact avec tout le monde tout le temps. On apprend des choses sur tous les sujets. On va se renseigner sur tout pour pas faire de gaffe, pour faire de conneries. On est sensibilisé à des choses auxquelles on ne serait pas sensibilisé de base. Tous les combats que tous les personnages principaux de chaque saison ont à vivre, forcément, bah, nous, ça nous atteint aussi en tant qu'humains et que personne. Parce qu'on va lire des articles, on va se renseigner. Donc ça va être assez global, mais ça m'a appris une rigueur de travail aussi monstrueuse et une reconnaissance du travail des autres, parce que là, vraiment, sans toutes ces personnes-là sur ce plateau, jamais on aurait pu faire ce qu'on a fait.
Voilà, une phrase qui rejoint tout ce qu'on nous a dit précédemment dans les podcasts, hein, que ce soit Patrick Stewart ou Perry Mason la dernière fois, c'est que c'est un travail collectif et que sans le collectif, l'art est collectif.
Voilà.
Parler aussi, puisque nous sommes donc sur Beta Série, écouté par beaucoup de sériephiles, j'aimerais qu'on fasse quelques focus sur les séries que tu aimes. Des séries, ça tombe bien pour notre émission, pas mal de séries dont on a déjà parlé, voire reçu les équipes dans Entourage. Des séries dites, alors attention à ce mot élitiste, mais en tout cas ce sont des séries au thème profond, donc des séries qui ne se consomment pas facilement. Peut-être d'abord, comment as-tu, t'as une éducation culturelle assez forte, hein, parce que tu as des 2 parents dans le métier, c'est eux qui t'ont mis dans les séries?
Alors, moi, j'ai 2 parents comédiens de théâtre, donc théâtre. Pour le coup, vraiment, moi, ils m'ont mis au théâtre, c'est-à-dire à la lecture du théâtre et à voir beaucoup, beaucoup de théâtre. Les séries, je pense que j'ai commencé à en consommer, c'est un peu comme une drogue, avec ma mère. Je pense que ça a dû commencer comme ça, ou par des séries de base comme Les Simpsons, je pense. Je pense que la première série que j'ai bingée, c'était Les Simpsons. Quand ce terme n'existait pas encore, d'ailleurs, je pense.
Binge-watcher, tout à fait.
En tout cas, il n'était pas arrivé en France. Et je pense avec la culture en Angleterre aussi, le fait d'avoir fait beaucoup d'allers-retours là-bas, du fait que j'ai un oncle qui habite là-bas, et que j'ai fait du travail là-bas et tout ça. Je pense que j'ai commencé à en consommer comme ça, puis après il y a eu Netflix, et là je suis tombée dedans. Vraiment. Mais je pense que je suis tombée dans la marmite étant petite, ma mère me donnait des cassettes, donc j'avais beaucoup de séries en cassette, j'ai jamais regardé la télé, donc je ne connaissais pas les Totally Spies, je ne connaissais pas Martin Matin, moi je connaissais Albator, Les Quatre Filles du Dr March, Rémi Sans Famille, c'était vraiment Tom Sawyer, mais j'ai grandi avec ces références-là, et pas les références de la télé. Voilà, j'ai grandi avec ces séries-là. Ulysse 31, mon Dieu.
Et justement, au niveau, tu parlais de ton amour pour Netflix, amour également pour les plateformes Amazon et HBO, donc OCS, petite sœur française.
Oh, totalement.
Première série dont on va parler, ce qui nous ramène à podcast avec Maxence, c'était un de ses choix également. On va regarder la bande-annonce d'une série que vous pouvez retrouver en intégralité sur OCS. Les trois saisons sont disponibles en intégralité, ça s'appelle The Leftovers. On regarde tout de suite un petit extrait pour la bande-annonce, je crois, et puis on en parle juste après.
There's a button, a red button. Yeah, honey. It's okay, baby. Yeah. It's a red button. Oh my God, just press it in with a pen or something. Oh, it's perfect. It'll start back up. Okay, I'm in the car right now. Can you make the formula? I'm gonna be home and... Sam? 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 Sam?
Voilà, The Leftovers, pardon, une série de Damon Lindelof, hein, on lui doit également d'ailleurs Lost, on lui doit, c'est un des plus grands showrunners possibles, Please Come to My Podcast, Guild of America Awards, Walter Guild of America Awards, enfin bon bref, pour Tom Perrotta et pour Damon Lindelof, les deux showrunners, une série philosophique très forte, quelques mots du coup sur cette série pour essayer de donner envie aux gens de regarder.
C'est une série si actuelle en fait,
C'est
sur la disparition donc de 1% de la population d'un coup comme ça sans explication, on ne sait pas ce qu'ils ont fait et tout ça, et comment une société va se réorganiser en fonction de ça, comment des choses d'attraction, comme des parcs d'attraction, c'est pas des parcs, c'est un lieu d'attraction, cette saison 2 justement, cette secte qui est mise en place, comment donner envie de voir cette série,
qu'est-ce qui t'a plu peut-être dedans? Quels sont les thèmes qui t'ont... Déjà, la place des femmes.
La place des femmes est dingue. C'est pas seulement des femmes pour faire joli, disons.
Ah
enfin,
oui.
C'est des rôles qui sont pas caractérisés par le fait d'être une femme, en tout cas. Donc ça, c'est bien. Pas caractérisés par leur sexualité et tout ça aussi. Donc ça, c'est pratique. Et c'est très actuel, parce qu'ils ne savent pas où ces gens partent. Et d'un coup, quand on a eu ce coronavirus, bah, on était chez nous et on n'a pas pu être avec nos proches qui partaient ou qui étaient dans des situations de détresse absolue. Donc voilà, la musique est absolument dingue. C'est Max Richter, si je ne m'abuse.
Exactement.
Damon Lindelof, dont on parlera, je pense, après, avec qui a fait juste après en showrunner. Watchmen.
Ah, tout à fait, mais bien sûr. Là, je me plongeais dans tes yeux, j'étais de quoi me parler.
Mais de quoi me parlait-elle? Oui. Et donc, non, mais j'ai.
Damon Lindelof, showrunner, aux fins contrastées, hein, la fin, le final de The Leftovers, pareil, il faut un petit peu de recul pour, comme mais le final de.
C'est là où j'ai beaucoup de mal à en parler. Oui, mais ça, il est très drôle avec ça. Ne m'en parlez pas. Non, mais c'est-à-dire qu'en fait, sans spoiler et sans... Parce que c'est une ambiance, c'est plus que juste une histoire, même si elle est très 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 forte. C'est une ambiance, c'est ce personnage qui est... C'est ces personnages principaux et secondaires qu'on retrouve dans d'autres séries. D'ailleurs, celle qui joue dans Handmaid's Tale, Aunt Lydia. Et c'est très compliqué d'expliquer. C'est une ambiance malsaine, en même temps assez dingue, d'une société qui se reconstruit autour de ça, autour de ces disparitions, autour de cette secte, autour de comment créer une économie en fonction de ça. Et voilà. Donc c'est assez fou.
Mais tu as raison, dans le sens où c'est une série très actuelle, visionnaire, oui, philosophique, qui fait réfléchir, qui amène à la réflexion. The Leftovers, disponible donc sur OCS, tout comme The Handmaid's Tale que tu viens de citer, également disponible sur OCS. On va lancer un extrait d'une série très importante pour le monde des séries, pour le monde des auteurs, des scénaristes et pour l'humour en général. C'est une série qui s'appelle The Office, une série très importante pour toi. Alors peut-être, comment est-ce que tu expliquerais The Office en une minute avant qu'on lance l'extrait?
The Office, je suis nulle parce que à chaque fois je le dis comme donc c'est un bureau de gens qui vendent du papier. On est à Dunder Mifflin qui se passe à Scranton et c'est que des acteurs de dingue qui jouent des rôles de gens nuls, plus nuls les uns que les autres et qui ensemble forment une espèce de famille et qui se tirent vers le haut, tirent vers le bas et qui se font des blagues ou pas, plus ou moins drôle, mais ça devient, on fait partie de la famille à force de voir. Et j'ai même pas pu voir les deux derniers épisodes tellement je pleurais, en fait, devant les cinq derniers que j'ai vus. Du coup, j'ai pas vu le final qui est déchirant et sublime. Donc, j'ai vu toutes les autres scènes autour, tout ce qui s'est passé, les scènes coupées, les making of, Billie Eilish qui réagit avec Rainn Wilson et tout ça. Mais oui, je suis absolument fan et j'en parle de manière absolument... passionnée, parce que c'est une série qui m'a bouleversée, vraiment.
Et ben justement, on va regarder un petit extrait de The Office, Steve Carell, évidemment.
Bien dire, parce que
The Office US, évidemment.
Parce qu'il y a un UK, il faut voir le UK, par contre, vraiment, avant même de voir... Enfin, faut. Faites évidemment ce que vous voulez. Hein. Mais l'histoire de savoir d'où ça vient et d'où viennent ces personnages-là et comment ils ont transformé cette comédie dramatique qu'est The Office UK en une comédie américaine et aussi avec quelques dramas, mais plus dans les dernières saisons. Parce que ça n'a rien à voir, mais c'est tellement bien joué dans les deux cas. Bon, ils n'ont eu que deux saisons, mais voilà, c'était assez dingue.
Tu as raison, un peu comme Queer as Folk, qui a eu une version anglaise, une version américaine. The Office, un Golden Globe évidemment pour Steve Carell, la version américaine.
Alright. So, assessing the situation, are they breathing?
No, Rose, they are not breathing. And they have no arms or legs.
No, that's not part of it.
Where are they? You know what? If we come across somebody with no arms or legs, do we bother resuscitating them? I mean, what kind of quality of life do we have there?
I would want to live with no legs.
How about no arms? No arms or legs is basically how you exist right now, Kevin. You don't do anything.
All right, well, let's get back to it, because you're losing them. Okay, too fast. Everyone, we need to pump at a pace of 100 beats per minute.
Oh, okay, that's hard to keep track. How many is that per hour?
How's that going to help you?
I will divide and then count to it.
Right.
Okay, well, a good trick is to pump to the tune of Staying Alive by the Bee Gees. Do you know that song?
Yes, I do. I love that song. First I was afraid, I was petrified.
No, it's... staying alive,
okay. Yes,
staying
alive. You were in the parking lot earlier. That's how I know you. Staying alive, staying alive. Staying alive, staying alive.
You can't tell by the way I use my walk. I'm a woman's man, no time at all. Words in love, women more, been kicked around since I was born. Well, it's all right, it's okay. You can look the other way. Let it go,
okay.
Let it go.
Okay.
Get it, get it.
Staying alive.
light, staying alive.
Yeah, okay, you didn't maintain 100 beats per minute, and the ambulance didn't arrive because nobody called 911, so you lost him.
Okay, he's dead. Anyone know what we do next? Anybody? Rose?
I have no idea.
Anyone else?
We bury him.
Wrong. Check for an organ donor card. If he has one, we only have minutes to harvest.
He has no wallet, I checked.
He is an organ donor.
He is?
Yeah.
Give me some ice and a styrofoam bucket. Here we go.
Oh, my God!
Why?
We search for the organs. Where's the heart? The precious heart.
I'm not feeling well. I need to sit down. Oh,
Stanley.
Oh,
Stanley, are you okay?
Oh my God!
Voilà, The Office, hein, série évidemment à binge-watcher à retrouver, et une autre série, on repart sur OCS, c'est une série qui a été très importante hein, ces deux dernières années, une série qui s'appelle Succession avec Brian Cox. Je pense que c'est un plébiscite critique public et
alors,
au sein des...
Mais il n'est pas assez connu à mon goût quand même. Pas assez reconnu.
C'est bien pour ça qu'il faut en parler. Dans un de mes précédents podcasts, justement, j'avais un petit acteur anobli par la reine qui s'appelle Patrick Stewart qui m'en parlait. Écoutons ce qu'il me dit sur Succession, sur Brian Cox, et puis après, du coup, je te demanderai d'en rajouter un petit peu.
La série qui s'appelle Succession, je ne sais pas si tu l'as vu, Michel. C'est une série avec Brian Cox en personnage principal. C'est à propos d'une famille, mais en réalité, ça parle vraiment de la société. Et c'est fascinant à regarder. Le jeu des comédiens est brillant, avec un message très puissant. Tu l'as vu, Kevin, est-ce que tu as aimé ?
Évidemment.
C'est génial, n'est-ce pas ? Et Brian Cox est époustouflant dans le personnage. Et j'ai l'impression que ça arrive de plus en plus, des séries aussi pertinentes.
Voilà, Patrick Stewart, hein, que nous avions pour Star Trek et qui me parlait de son amour pour Brian Cox. Qu'est-ce qui t'a séduit dans Succession que vous pouvez également retrouver sur OCS ?
Le jeu d'acteur dingue, toute cette famille qui sont tous des monstres et plus horribles les uns que les autres, mais pour qui on s'attache et on ne sait pas par quel billet de dingue de jeu d'acteur d'écriture et de réalisation, on s'attache à ces monstres. D'ailleurs par ce grand dadais, dont je n'ai plus le nom de l'acteur, mais qui est absolument dingue.
Brian Cox.
L'acteur, tu sais, un des acteurs principaux de la famille, le
nouveau. Ah oui, Yolasmi, je vois totalement.
Mais
oui.
Je n'ai plus.
Dites-nous en commentaire, en guirlandais-nous.
Voilà, vous avez forcément le droit, totalement. Et non, mais j'ai pas trop d'autres choses à rajouter. C'est dingue, même les Simpsons ont repris en canapé, là, le thème canapé là, du début. Le générique de Succession, c'est absolument dément. Et non, mais c'est vraiment à voir. En plus, il y a Holly Hunter qui arrive dans la saison 2.
Holly Hunter, hein, immense actrice.
Bien le coup. Mais voilà. C'est pas un immense rôle, mais...
Ça fait plaisir, Holly Hunter, qu'on a vu dans une série OCS, HBO, pardon, mais diffusée sur OCS, qui malheureusement n'a pas marché il y a quelques années. J'étais content de voir aussi qu'elle revenait
Top of the Lake ?
Non, une autre, une série qui n'a fait qu'une saison, et évidemment, je n'ai plus le type.
Et
une
autre bureau.
C'est pas grave, tu me pièges, mais tu... Ah, voilà, merci beaucoup.
Oh. Here and now. Moi, j'avais bien aimé Here and Now, justement. Bon.
Here and Now,
mais
moi aussi, très bizarre. Malheureusement, une saison et ensuite annulée. Merci en régie, on vient de me dire Here and Now. Succession, donc, à retrouver sur OCS, tout comme The Leftovers à binge watcher, absolument. Tout de suite, on va montrer un extrait. Enfin, pas montrer un extrait, on va diffuser ton clip et en musique et en vidéo. Un clip dans lequel vous pouvez retrouver également Maxence Danet-Fauvel, qui joue également avec toi dans la série Scam, qui joue Elliot. On retrouve également Victor Meutlet, que vous avez pu voir dans Clem, Le Bazar de la Charité et très prochainement Grand Hôtel. Ça s'appelle Mon île à moi, c'est ton premier EP, ton premier bébé, ton premier single, avec à mon avis beaucoup de choses qui vont arriver après, un univers très particulier, que ce soit dans la voix, dans la musique, dans le clip réalisé par Manon Gorin. Alors on écoute tout de suite, ça nous fait une pause musicale et puis tu nous en parles juste après.
Okay.
Je suis ton île à toi, tu es mon île à moi. Remplir sans parole amère des flacons jetés par hasard, assise en bord de mer, si je veux être bavarde. Au bord l'enveloppe navigue, une fiole d'un litre d'amour, les mots légers sur le navire, les vagues sont de velours. Je suis ton île à toi, ah ah, tu es mon île à moi. Je suis ton île à toi, ah ah, tu
Mon île à moi, qui est donc disponible sur toutes les plateformes de streaming, qui laisse, je suppose, présager un album ou des projets à venir.
En tout cas, un EP. Album, c'est encore un peu trop tôt. Un EP qu'on espère sortir d'ici à la fin de l'année, plus à la rentrée qu'autre chose. En tout cas, on fait tout pour. Et oui, j'ai eu la chance de travailler avec des gens extraordinaires sur cette EP, que ce soit derrière les planches, qui m'ont présenté Oxmo Puccino, avec qui j'ai écrit les paroles, on a coécrit ces paroles-là.
Oxmo Puccino, qui pour les gens qui ne connaîtraient pas la culture urbaine, est quelqu'un de très important, qui a beaucoup travaillé avec NTM notamment, enfin très important dans le rap français.
Ouais, et qui est un poète absolu et quelqu'un d'incroyable, avec Édouard Ardan aussi sur la musique. Et c'est des gens qui forment pour moi, c'est très très important ces rencontres-là, en tout cas dans ma vie, parce que en tant qu'actrice, on est un peu justement pas trop acteur de notre réussite. On est un peu à l'affût de travail, en attendant limite que le téléphone sonne. Et quand on est là-dessus, on doit tout faire nous-mêmes, et c'est génial. On apprend justement tous les corps de métier. On se retrouve à faire des réunions de prod jusqu'à pas d'heure. On se retrouve à appeler des gens en urgence, à aller commander des sky panels, chose que je ne connaissais absolument pas avant, pour faire des clips, à connaître les prix de toutes les maisons de location.
Oui, parce que le clip t'a été vraiment très impliqué dans que les gens aient vraiment voir. C'est toi qui donnais tes mood board, c'est quoi? C'est-à-dire que tu dis à la réalisatrice, voilà l'univers que j'aimerais aborder dans ce clip grâce à des films, des séries. C'est bien ça?
C'est à peu près ça, dans le sens où elle est arrivée avec une vraie idée en tête, Manon.
Manon
Gorin, la réalisatrice. Et que même avec Léa, on savait qu'on n'allait pas avoir Léa Gillet-Laurent, qui est en fait avec moi dans la production et tout ça, qui fait toute la production d'ailleurs, des clips avec Tunnel Prod. Et c'est vraiment chouette de l'avoir, parce que sans elle, je n'y arriverais pas du tout. Et on avait tellement peu de budget pour tout ça, qu'on a réussi à faire quelque chose que je pense est assez professionnel pour ce qu'on avait comme...
Mais c'est un très 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 joli clip, hein. Victor et Maxence, très bien filmé, toi pareil.
Merci à eux d'être là et de m'avoir suivi dans cette aventure avec les yeux fermés, en tout cas.
D'ailleurs, il me semble qu'il y a d'autres clips à venir, alors on va pas dire avec qui, etc., mais d'autres clips avec d'autres personnes issues de séries qu'on connaît tous très bien, et ça va arriver dans les mois à venir, donc on se surveille pour les EP et pour d'autres clips.
On espère, et on fait tout pour, en tout cas.
Et au niveau du théâtre, parce qu'il y a un projet de théâtre qui va arriver dans pas longtemps.
Il y a un projet de théâtre. Maintenant, les théâtres, comme on sait, on est sur une crise. Et je pense qu'en 2021, ça va d'autant plus se ressentir. Parce que beaucoup de projets ont été annulés, beaucoup de projets ont été recalés et tout ça. Là, je pense qu'on a une belle distribution, en tout cas grâce à Cyrielle Claire et Pierre Forest, dont je joue l'enfant.
Comment s'appelle la création?
Rasputin ou l'invitation à dîner.
D'accord.
Et donc c'est la vie de Rasputin, en tout cas sa mort. C'est l'histoire de sa mort qui est
Rasputin,
absolument démente.
Rasputin qui était démente. Au service des Romanov au début du siècle.
Et donc moi je fais la fille de Rasputin et de la tsarine. Je change de rôle en plein
milieu. Ça c'est une création qu'on retrouvera en 2021 donc?
Normalement oui.
2021, voilà. Très bien. Il y a aussi un tournage très important que tu vas commencer dans pas longtemps. On peut pas trop en parler, donc on ne va rien dire. Mais c'est pour une plateforme en plus que tu aimes bien. Ça change complètement de France TV / et ça change complètement du rôle de Daphné.
Totalement.
Donc tu rentres dans un tournage très important là. Pour plusieurs mois, on découvrira ça, je pense, du coup, à la rentrée 2021, rentrée de septembre 2021,
oui,
normalement.
Oui, je pense, oui.
À surveiller. J'ai eu la chance de lire d'ailleurs, et je peux vous dire que c'est une série dont on va beaucoup parler, mais on ne dit rien pour le moment. Je voulais, juste avant qu'on se quitte, parler quelques minutes, puisque tu viens de parler des séries que tu adorais, avec des rôles de femmes importantes dedans, des actrices. On a vu comme les actrices étaient importantes. Peut-être parler quelques secondes de ton implication pour En avant toutes, qui est un mouvement féministe, un mouvement important tout court d'ailleurs, puisqu'il n'y a pas de mouvement féministe, il n'y a que des mouvements. Donc explique-nous.
Merci beaucoup d'en parler. C'est des filles qui ont créé un chat en ligne, un site hyper bien fait qui s'appelle Comment on s'aime, sur lequel on peut parler à des professionnels de problèmes qu'on rencontre ou que des amis rencontrent, pour pas être seul dans ces moments-là, pour avoir des bonnes réactions, pour en tout cas aider et se faire renvoyer vers des choses, d'autres plateformes ou des choses qui pourront aider et tout ça, vers la Maison des Femmes, la Fondation, les Nous Toutes, des organisations comme ça. Et c'est très très important ce qu'elles ont fait, parce qu'elles donnent des mots qui ne sont pas que les mots victimes et les mots agression et tout ça, des mots beaucoup plus doux pour pouvoir amener à une reconnaissance en tout cas des victimes, et qu'elles se reconnaissent et qu'elles comprennent que ce qu'elles ont vécu n'était pas forcément normal et que ça n'a pas à être banalisé et qu'il faut se faire aider et que ça n'a plus à être quelque chose de normal. Donc allez sur ce site,
voilà, en avant toute,
partagez sur les réseaux et Comment on s'aime aussi, ce site
en avant toute, Comment on s'aime. De toute façon, ça vous pouvez le retrouver sur les réseaux Twitter, Facebook et Instagram de Lula, Lula Coton Frappier, le réseau En avant toute également, les saisons 5 et 6 de Scam France, qui conclut l'arc narratif avec tous ces acteurs qu'on a connus pendant 3 ans, l'occasion d'embrasser Maxence Danet-Fauvel et Axel Orion, que j'avais aussi reçu dans des podcasts. Vous pouvez les retrouver donc sur France TV/, en attendant les saisons 7 et 8, mais qui n'ont plus rien à voir avec ce qu'on a vu pendant 6 saisons. Mon île à moi, je le redis encore, allez streamer le single de Lula sur les plateformes de téléchargement légal et partager le clip, hein, qui est très bien mis en lumière, hein, et c'est un très très beau clip. On te retrouvera dans Entourage ou sur Beta Série pour cette série très attendue qui sortira donc dans un an, et vous avez compris, on ne peut pas en parler, mais c'est très attendu quand même. Je voudrais remercier pour ce podcast Mathilde Dandeux, qui m'a aidé à faire le conducteur et toutes ces vidéos et à choisir tout ça. Je voudrais remercier Rémi et Claudia à la production. Je voudrais remercier Jason au son. Remercier également OCS pour les droits de toutes ces séries, que vous pouvez donc retrouver Succession et The Leftovers sur OCS. Binge Watch chez The Office, hein, vous l'aurez compris. Vous c'est ne perdrez
Amazon
pas
Prime.
Votre temps. Amazon, qui est disponible là sur Amazon Prime, tout à fait. Et juste avant qu'on se quitte, puisqu'on va se terminer en musique, comme d'habitude dans l'émission, on a ouvert avec Marilyn Monroe, on va finir avec Romy Schneider. Puisqu'au moment où on enregistre cette émission fin juin, elle est diffusée au milieu de l'été, Michel Piccoli est décédé il y a quelques jours, quelques semaines. Je voulais donc faire un petit clin d'œil, puis on se quittera avec quelques secondes de la chanson d'Hélène. Quelques mots sur Michel Piccoli.
Je saurais vraiment pas trop quoi en dire, à part que je pense qu'il y a eu une immense émotion, même assez inattendue, de la part de toute la France. Même personne s'attendait à ce que tout le monde réagisse autant à sa mort, et je pense que ça montre que... qu'on en était très attachés et que Romy Schneider...
Voilà, l'occasion, toute occasion est bonne d'entendre Romy Schneider.
D'entendre Romy Schneider.
On va donc voilà. Se quitter là-dessus. On vous suit hein, tout l'été hein, sur Beta Série. On vous proposera des podcasts tout au long de l'été. Donc n'hésitez pas aller voir la page, l'application Beta Série, à évidemment en parler autour de vous, partager ce podcast. Lula regarde Perry Mason absolument.
Oui.
Série très importante que vous pouvez retrouver tout l'été sur OCS. Et on se retrouve donc très rapidement dans cet été pour un nouveau podcast sur Beta Série. Vive les séries. À très bientôt. Et merci Lula pour
merci
cette
Kevin.
Heure en ta compagnie. Merci beaucoup.
Ce soir, nous sommes septembre. Et j'ai.
C'est mieux ainsi, Hélène. C'était l'amour sans amitié. Il va falloir changer de mémoire.